Le titre de mon partage de cet après-midi, rien de très compliqué, la démarche chrétienne. La démarche chrétienne. Quand j'étais petit, je vais vous dire une phrase que ceux qui écoutent Parole du matin vont reconnaître. Quand j'étais petit dans mon lac Saint-Jean natal, n'est-ce pas, on allait à l'église, bien sûr. Et on ne nous enseignait pas ce qu'on devait croire. On nous disait quoi faire. Hein? Pour ceux qui ont suivi l'ancienne religion comme moi, là, c'est un peu comme ça, ça se passait. On nous disait quoi faire et on tentait de le faire du mieux qu'on pouvait. C'est pour ça qu'il fallait aller au confessionnal très souvent, parce qu'on n'y parvenait pas toujours avec beaucoup, beaucoup de grâce. Mais le fait demeure, c'est que s'il y avait de l'exagération à l'époque, il y a un danger de tomber dans l'autre extrême, ce que j'ai fait pendant un certain temps. Je disais toujours à mes étudiants à la faculté, à chaque fois que j'enseigne mes étudiants à la faculté, il y en a toujours un ou deux qui levaient la main. « Mais docteur Perron, comment est-ce qu'on fait cela? » Et ma réponse était toujours la même. On ne fait pas de la théologie comme on fait des hot-dogs, voyez-vous? La théologie, c'est une science de réflexion. Alors, pour un hot-dog, c'est simple. On prend le pain, on le fait cuire, la saucisse, on met le ketchup et on le sert. Mais la théologie, il faut l'écouter attentivement et ensuite, on la met en pratique. Mais j'ai réalisé que c'est pas tout à fait vrai. Il y a une place pour dire « voici comment on le fait ». Il y a une place pour les « how to's hein? ». Comment on fait les choses, de quelle manière on doit faire les choses. Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin. Il nous dit « comment on doit marcher ». Il nous rappelle d'abord comment on marchait avant. Et comment maintenant, en nouveauté de vie, devons-nous prendre un nouveau pas, avoir une nouvelle démarche, même endosser une nouvelle tenue vestimentaire spirituelle, pour ainsi dire. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 17 à 24. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Je l'ai à partir donc de la seconde, 1979. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité est très productrice, j'ai beaucoup aimé dans la prière de Christian ce matin, une écoute active. Hein? On ne fait pas uniquement assister à un culte, on participe par une écoute active, une écoute de réceptivité avec un désir de mettre en pratique ce que nous avons reçu. Toujours intéressant de noter et de constater que nous, dans le monde occidental, on ne calcule pas le temps à partir d'un point fixe dans le passé, auquel on ajoute les années, n'est-ce pas, l'une après l'autre. On part plutôt d'un point central et nous calculons les années avant et après ce point central-là. Le calendrier juif, lui, commence différemment. Il commence avec ce qu'il croit être la date de la création. Alors, pour les Juifs, on est, je pense, aux alentours de 5782. À partir de la création. Bien sûr, on calcule les généalogies comme si c'était une science exacte là, qui nous est rapportée, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et on va de l'avant. C'est la même chose d'ailleurs pour le calendrier chinois. Mais il n'en va pas ici pour le calendrier chrétien. Nous, chrétiens, nous partons d'une année, je dis bien une année approximative, parce que quand on parle de l'année zéro, c'est faux. Il n'y a pas d'année zéro. Jésus n'est pas né à l'année zéro. On sait que Denis le Petit, Dionysius Exiguus, là, le petit moine, qui a fait notre calendrier, s'est gouré un peu et il s'est trompé entre 4 et 6 ans. Jésus est vraisemblablement né au mois d'octobre de l'an 4 ou de l'an 5 ou de l'an 6 avant Jésus-Christ. Mais peu importe. On part d'une date approximative et c'est à partir de cela que nous comptons les années qui étaient avant Jésus-Christ et les années qui sont après Jésus-Christ, ces années qu'on appelle Anno Domini, l'année du Seigneur, l'an de grâce du Seigneur. Et on rend ici témoignage de quelque chose de très important. On rend témoignage au fait que Jésus de Nazareth représente la ligne qui divise l'histoire. Jésus représente celui qui divise bien plus que l'histoire, d'ailleurs. Il est aussi le point de division personnel pour tous ceux qui sont sauvés par lui. Et on va s'expliquer là-dessus. C'est d'ailleurs ce que Paul a à l'esprit dans son traitement de la conduite pratique du chrétien, alors qu'il mentionne ce que nous étions avant. Ce que nous étions sans le Christ et ce que nous sommes maintenant en lui avec de nouveaux standards. C'est ainsi qu'au verset 20 du chapitre 4, nous pouvons lire « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Dès qu'on apprend Christ, il y a un changement majeur qui s'opère, un changement de direction et un changement de pas. Et c'est sur cette note que Paul introduit sa description de la vie chrétienne. C'est important de noter que le tout commence avec une référence à qui? Ben, au Christ lui-même. Et non à quelque chose qui aurait pu émaner de nos cœurs dépravés ou de nos futiles efforts humains. Il y a plusieurs personnes qui croient qu'une nouvelle vie ou un nouveau commencement de vie peut émerger de nous-mêmes, peut venir du fait qu'on fait une découverte de soi. On vit une expérience pratique et ça nous fait réfléchir et on dit « Ah ben voilà, je ne serai plus jamais la même personne. Hein? » Bon, ça dure pour un petit bout de temps, mais pas très, 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 très longtemps. Ce n'est pas la manière dont les changements se produisent. Il y a certains qui pensent qu'un changement peut être découvert dans une illumination personnelle. Même au niveau de la foi chrétienne, puis on pense à Schleiermacher, plusieurs ont cru cela, que le Christ s'appréhendait, passez-moi l'expression, à partir d'une saisie personnelle et que la parole est un peu secondaire. D'autres cherchent cette lumière-là dans le mysticisme. Dans la nouvelle résurgence des religions orientales, d'autres encore continuent à avoir foi dans la notion de ce qu'ils appellent l'inévitable progrès. Où est-ce que vous vous tenez là-dedans? L'inévitable progrès. Il nous mène où, le progrès? Hein? Il nous mène davantage à rechercher toujours plus l'assouvissement des passions humaines. Le véritable changement ne vient d'aucune de ces manières-là, vous savez. Jésus, c'est l'élément de division. Non seulement de l'histoire, mais aussi dans la vie d'un nombre incalculable de personnes. Je ne vous étonnerai vraisemblablement pas si je vous dis que j'ai 3 points encore ce matin. Ce n'est pas de notre faute, hein? Dieu est trine et il nous donne généralement des prédications en 3 points. Mon premier point, c'est la marche des païens, versets 17-19. Mon deuxième point, c'est l'apprentissage chrétien, versets 20 à 22. Et mon troisième point, c'est la marche chrétienne, versets 23 et 24. Donc, la marche des païens. On dit souvent, je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point, mais c'est ultra réductionniste à mon avis. On dit souvent que la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le premier a été pardonné et le deuxième ne l'a pas été. C'est une réalité fondamentale de base, mais c'est beaucoup plus que cela. Pour la simple raison que l'œuvre du Seigneur ne fait pas seulement que nous procurer le pardon à ceux qui viennent à lui, à ceux qui se convertissent, mais c'est une œuvre qui transforme. C'est pour ça qu'on se plaît à dire que l'Évangile informe et l'Évangile transforme. S'il ne fait qu'informer, il n'y a pas de communion avec le Christ, il n'y a pas de communion avec Dieu. Il doit impérativement nous transformer. C'est ce que nous appelons communément la nouvelle naissance. Et c'est bien ici que l'apôtre dit au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Avant notre conversion, nous étions païens et nous marchions comme les païens, mais maintenant on marche différemment. la grande question se pose, ils marchent comment les païens? Comment est-ce qu'on marchait avant? Bien, l'apôtre nous en parle au verset 17 jusqu'au verset 19 et il nous donne cinq caractéristiques de la marche des non-convertis. Premièrement, il nous dit « ils marchent selon la vanité de leur pensée ». Ça veut dire quoi le mot « vanité » ? Et là, Salomon va dire « vanité, des vanités, tout est vanité » et poursuite du vent. Vanité, ça veut simplement dire vide, pas de contenu. Ils marchent selon le vide de leur pensée. Ce n'est pas qu'ils ne pensent pas. Ils ont une capacité de penser, mais spirituellement, c'est vide. Leur pensée se limite exclusivement à ce qui est terrestre, à ce qui est autour d'eux, à ce qui se rapproche d'eux. Vous savez, il y a toujours deux choix lorsqu'on choisit notre divinité, parce que tout le monde adore quelqu'un. C'est soit le vrai Dieu ou on choisit soi-même. On choisit de se servir soi-même, d'assouvir nos passions, de travailler pour notre bien-être à nous, avoir le maximum sur terre, et après on verra. C'est ce que l'Ecclésiaste dénonce, hein, à bien des égards. La vie sous le soleil et la vie au-dessus du soleil. Alors, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Leurs pensées sont exclusivement dirigées vers les choses de ce monde, sans aucun souci ou sans aucune considération, pourrait-on dire, pour les choses d'en haut. Tout est fait, en fait, pour le présent, pour le plaisir, pour le confort, pour l'assouvissement de nos passions. Dieu n'est pas contre le plaisir. Dieu n'est pas contre l'assouvissement de nos passions. Dieu n'est pas contre le fait qu'on vit dans le présent. On n'est pas encore projeté dans le futur sans vivre dans le présent. Mais il y a une manière de le faire, vous voyez. Ça ne peut pas devenir le critère ultime. Ce n'est pas ma direction ultime, ce n'est pas mon investissement ultime, en quelque sorte. Alors, les païens, donc, marchent selon la vanité de leur pensée. Et quand on les rencontre, ils peuvent même tenir un discours spirituel. « Oui, j'ai une certaine spiritualité, j'ai une intériorité. Il m'arrive parfois même d'aller faire un tour à l'église à l'occasion, de faire une prière à quelqu'un. Hein. Vous allez chez les AA, par exemple, vous choisissez votre propre Dieu, etc., etc. Hein? » Alors, leur pensée est là, mais elle est vide, spirituellement parlant. Ça, c'est le premier critère des païens. Et l'apôtre dit, vous ne pouvez plus, vous ne devez plus marcher comme cela, selon ce que vous ressentez. Deuxièmement, ils ont l'intelligence obscurcie. Encore une fois, ça ne veut aucunement dire qu'ils sont idiots, les païens. Hein? Bien au contraire, ça ne veut pas dire qu'ils manquent d'intelligence, que leur quotient intellectuel est infiniment bas. C'est pas du tout ce que l'apôtre veut nous dire. Le mot intelligence est particulièrement intéressant. Ici, on va faire un petit peu de grec, ça ne vous embête pas. C'est le mot dianoïa. Voilà. C'est le mot dianoïa. Parce que je suis tellement habitué à l'autre mot pour repentance que je m'affargeais dedans. Le mot dianoïa, qui est traduit par intelligence. Il y a deux mots grecs synonymes, entre autres. Il y a dianoïa puis il y a nous, qui parlent de notre intériorité. Quand la Bible dit, on va en parler plus tard, là, mais quand on parle des effets noétiques de la chute, c'est ça qu'on veut dire. Les effets de la chute en Adam ont complètement bousillé la rectitude et la capacité de notre intériorité, de notre intelligence, de tout ce que nous sommes à l'intérieur. Notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière d'interpréter. C'est la raison pour laquelle Romains 12 nous dit qu'on a un besoin impératif d'être renouvelé dans notre dianoïa. Renouvelé dans notre intelligence afin de pouvoir donner une correcte interprétation des choses de notre vie, des choses de la terre. Parce qu'on en a déjà parlé, c'est ça le principe, le concept d'analogie. C'est penser les pensées de Dieu après lui. Hein? Ce n'est pas demander à Dieu qu'il pense nos pensées à nous après nous. C'est nous qui devons impérativement penser les pensées de Dieu après lui. Alors, Romains 12, 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, leur intelligence obscurcie ne peut apprécier la volonté de Dieu, ni même la désirer. pour en arriver à vouloir faire la volonté de Dieu, pour en arriver d'abord à vouloir la connaître, pour en arriver à prendre plaisir à ses commandements, il faut la repentance. Et c'est là le deuxième mot dans lequel je m'enfergeais tantôt, c'est le mot « métanoïa ». On retrouve encore le même « noïa » qui parle encore de notre intelligence, mais qui parle d'un changement d'intelligence. La repentance, vous savez, c'est pas se lancer par terre et pleurer pendant des jours et faire des crises. Bon, ça peut se manifester comme cela, mais la repentance, fondamentalement, c'est quand l'Esprit du Seigneur vient dans nos cœurs et nous convainc que notre façon de voir n'est pas la bonne, qu'on a vécu exclusivement pour nous et qu'il y en a une qui est infiniment correcte et qui va infiniment au-delà de cela. Donc, les païens, ils marchent selon le vide de leur pensée, selon l'obscurité de leur intelligence. Et ça n'arrête pas là. Il nous est dit, troisièmement, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas la vie de Dieu. Je vois quelqu'un passer sur la rue, c'est un pur étranger, je ne le connais pas. Ben, les païens, nous est-il rapporté, sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas de familiarité avec ce qu'est la vie de Dieu. Ils peuvent pratiquer une religion quelconque, vous savez. Ils peuvent même être zélés dans leur religion. Mais ils sont étrangers à la vie de Dieu que nous n'avons qu'en Christ Jésus, qu'en venant dans la personne du Seigneur notre Dieu. Ils ne sont pas de la famille de Dieu, ils ne marchent pas dans la lumière, ils ne sont pas habités par le Saint-Esprit, ils ne sont bénéficiaires d'aucune promesse de l'Alliance. Et quand on y pense, quand on voit juste cette description-là, est-ce que ça nous fait penser un peu, si nous sommes sauvés, à ce que nous étions auparavant? Est-ce que ça nous fait penser à quel point Dieu a été bon de venir nous chercher là où nous étions pour faire en sorte qu'on cesse d'être étrangers à sa vie? Pour faire en sorte de faire la lumière afin que nos pensées ne soient plus obscurcies, notre intelligence ne soit plus obscurcie, pour remplir nos pensées vides de sa vie et d'éternité? Colossiens chapitre 1, verset 21 nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Il y a encore de l'ouvrage à faire un peu, hein? « Saints, sans défaut et sans reproche. » Vous savez quoi? C'est ce que nous sommes de position. Ce n'est pas ce que nous sommes de condition, mais de position, c'est ce que nous sommes. Nous sommes effectivement saints, sans défaut et sans reproche. Et le texte nous donne le pourquoi de cette posture des païens. Donc, ils marchent selon la vanité de leur pensée, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? Ben, le texte nous le dit. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Ah ben voilà! Ils ont tout cela parce qu'ils sont ignorants. Et on pourrait dire, pauvres autres, c'est quand même pas de leur faute. Ils sont ignorants, on peut quand même pas les blâmer. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont ignorants? Ben la parole nous le dit aussi. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà d'où vient toute la difficulté. L'endurcissement du cœur humain. Tout est une question de cœur. À qui est-ce que mon cœur appartient? Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Qu'est-ce que j'investis dans mon cœur? Tant et aussi longtemps que le cœur reste endurci à la réception du Christ Jésus comme mon sauveur, ben, c'est comme ça que je marche, là. Mes pensées sont vides, mon intelligence est obscurcie et je suis étranger à la vie de Dieu. Je peux être une bonne personne, mes voisins peuvent beaucoup m'aimer. Hein, les gens autour peuvent me dire, ah, c'est un bon Jack, c'est un bon bonhomme, c'est une bonne femme. Mais je suis étranger à la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'au terme de ma vie, et on sait que ça passe très rapidement, ben je n'ai d'autre promesse que le jugement dernier, qui va durer pour l'éternité. Donc, depuis la chute, la dureté de cœur envers Dieu, la dureté du cœur envers le Dieu de la Bible. On aimerait avoir un petit Dieu, on aimerait tout ça. Avoir un petit Dieu portatif, là, hein, qu'on peut amener partout. Un petit Dieu qu'on pourrait contrôler, deux, trois sacrifices, puis là, tu me dois cela maintenant, Dieu. J'ai prié, donc tu me dois une réponse. Ça met Dieu en dette un peu, là. On aimerait tout ça. Un Dieu qui nous aiderait quand ça va mal. Mais le vrai Dieu, le Dieu souverain, qui ne nous doit strictement rien, mais auquel on doit tout. Ça, on aime moins ça. Pourquoi pensez-vous que la doctrine de la souveraineté divine est tellement offensante aux gens? Parce que ça nous dit que Dieu est souverain, que ce n'est pas nous qui sommes souverains, que si on veut marcher en rectitude de vie, c'est sous sa gouverne, souveraine. Donc, lorsqu'on regarde le CV d'un inconverti, on ne peut pas être plus au clair sur sa manière de vivre. Hein? Ce n'est pas nécessairement un grand bandit, là. Les inconvertis ne sont pas toujours en train de courir les rues, en train de voler les banques ou je ne sais pas trop quoi, là, vendre de l'héroïne ou whatever. Hein? Ça peut être des bons pêcheurs chez eux qui mènent des belles petites vies tranquilles puis qui sont aussi perdus que les grands bandits, vous savez. Le péché se manifeste peut-être moins extérieurement, mais le cœur n'est toujours pas pour le Seigneur. Ce n'est pas une question d'œuvre, c'est une question d'intériorité. Il vit selon la vanité de ses pensées, selon son intelligence obscurcie, son statut d'étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur. Et la conséquence logique de tout cela, on la retrouve au verset 19, qui nous dit « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » C'est quoi le dérèglement? C'est de poursuivre les règles. Risquez-vous un amen là-dessus? Hein? C'est de poursuivre les règles. Je vis dans le dérèglement lorsque je ne suis pas les règles. Qui est celui qui décide des règles? Est-ce qu'on va faire des statistiques, des sondages pour déterminer quelles sont les règles, comme les gouvernements font ou comme parfois on le fait dans notre culture? Non. C'est Dieu qui fait les règles. C'est le Dieu souverain qui décide de ce qui est beau, de ce qui est laid, de ce qui est mauvais, de ce qui est bon. Il est le critère ultime, c'est la référence ultime. Alors, lorsque je vis dans le dérèglement, c'est lorsque je ne vis pas selon les règles de Dieu. L'impureté et la cupidité. La cupidité. Vous dites quelque chose? Money is the issue, right? Hein? L'argent, c'est tellement important. Money is the issue. Puis la cupidité, ce n'est pas uniquement question d'argent. C'est toujours de chercher mon propre intérêt, mon propre profit dans quelques situations que ça puisse être. Romains chapitre 1, j'aurais aimé lire jusqu'au verset 30 quelques, mais ça aurait été un peu long. Romains chapitre 1, verset 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, littéralement ce qui est connu de Dieu, en grec c'est gnostos, c'est quelque chose qui est connu, car ce qui est connu de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Aucune excuse. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le péché de l'humanité, c'est qu'ils connaissent Dieu. C'est intéressant, hein? Jésus de dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il y a connaître et connaître, vous voyez, on en parlait un tout petit peu plus tantôt. C'est qu'ils savent que Dieu est là, le témoignage de Dieu est évident, ils regardent tout autour, l'évidence leur saute d'en face, passez-moi l'expression, mais ils refusent de glorifier Dieu. La raison de l'évangélisation, c'est pas parce qu'il y a des gens qui se perdent. C'est sûr que c'est grave que des gens se perdent pour l'éternité. Mais la raison de l'évangélisation, c'est pour que Dieu soit glorifié. Nous ne sommes pas anthropocentriques, centrés sur les gens. Pauvre petit, il va se perdre. C'est certain qu'on a compassion des gens qui se perdent. Mais le motif, la raison fondamentale, la raison d'être, de l'évangélisation, c'est parce que Dieu n'est pas glorifié. On comprend très bien qu'un chrétien régénéré ne peut d'aucune façon marcher de la manière qu'on vient de décrire chez les païens. Lui qui a reçu la lumière, lui dont l'intelligence se renouvelle, lui qui est participant de la vie de Dieu, dont le cœur de pierre a été remplacé par un cœur de chair. Hein? D'où l'injonction de Paul, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. » Le vieux dicton qui dit « Quand tu es à Rome, tu vis comme un Romain » ne s'applique pas du tout dans la question de la marche chrétienne. Et ça m'amène à mon deuxième point, qu'on va lubrifier un peu, avec un petit peu d'eau. Il ne fait pas si froid que ça, finalement. Hein? Avez-vous froid? Non, hein? Ah, ces Congolais-là sont frileux, hein? Donc, mon deuxième point, l'apprentissage chrétien, versets 20 à 22. Ça nous amène à réaliser plus clairement l'ensemble du système du monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons. Hein, on est tellement souvent en train de critiquer, pour ne pas dire en train de chialer après le monde. Bien, le monde, il est cohérent, il vit de manière mondaine. Les chrétiens le sont moins, ils ne vivent pas toujours de manière chrétienne. Mais le monde est cohérent, il vit de manière mondaine et il approfondit constamment sa mondanité. Et on a besoin de se rappeler c'est quoi le monde et de ne pas être étonné des réactions et des actions du monde et de la manière de penser du monde et à quel point c'est hostile à ce que nous sommes et à quel point il y a comme une collision frontale entre nos valeurs. Jésus, dans la prière sacerdotale en Jean 17, de nous dire que nous ne sommes pas du monde, mais on est dedans. Et il dit, ne les enlève pas du monde, mais préserve-les du monde. Il nous met dans le monde pour qu'effectivement, on soit des lumières et qu'on soit des porte-parole de ce glorieux évangile du Christ Jésus. Nous vivons dans une culture qui opère, passez-moi l'expression, une espèce de fragmentation, une espèce de séparation entre le cœur et le cerveau, si je puis m'exprimer ainsi. Hein? On utilise d'ailleurs à tort et à travers la pensée de Pascal, les raisons du cœur. On sert ça tous azimuts, on l'interprète de manière caricaturale et on veut faire en sorte que les sentiments l'emportent sur la raison. On dit toujours aux gens, il y a plus que l'intelligence. Je me souviens, dans certaines élections, on disait, votez avec vos tripes. Ça, c'est voter avec nos émotions. L'intelligence, ça peut servir encore. Ce n'est pas opposé non plus à la parole de Dieu, surtout lorsque c'est renouvelé. On entend des politiciens qui disent croire en certaines choses, mais qui nous affirment que ça n'influencera pas leur politique. Je me souviens, en fait, je ne le nommerai pas le pauvre, il y en a plusieurs comme cela, aux États-Unis, un brave monsieur qui se disait tout à fait un chrétien en bonne et due forme, qui était vraiment opposé à l'avortement, mais ça n'allait pas influencer sa politique. Il allait continuer d'être... Il était contre l'avortement, il allait continuer d'être pour l'avortement, puisque c'était la volonté du peuple. Vous voyez? On n'invite pas les gens à se présenter en politique pour être ce que nous sommes. S'ils ne nous représentent pas, ben, ils n'ont pas d'affaires là. Voyez? Alors, si les gens sont incapables de se tenir pour leurs valeurs, ben, il va nous rester quoi? On n'a pas besoin d'eux. Ça demeure juste des êtres décoratifs qui ne le sont pas toujours, soit dit en passant. Alors, c'est le genre de situation qui ne peut que dégénérer en antidogme. Et on le voit chez certains chrétiens. Vous avez déjà entendu l'expression « Dieu m'a dit ». Hein? Il m'a parlé, il a parlé à mon cœur, malgré souvent que la parole de Dieu dise autre chose. J'ai toujours beaucoup apprécié, pas pour les bonnes raisons, mais enfin, j'ai toujours beaucoup apprécié les propos du docteur Bergeron, qui était professeur à l'Université de Montréal il y a plusieurs années. Il a fait un beau travail dans le dictionnaire de théologie fondamentale, mais pour sa thèse de doctorat, il a manqué le bateau de plusieurs kilomètres. Et je suis heureux de le dire publiquement, d'ailleurs, c'est pas la première fois que je le raconte, il a vraiment manqué le bateau dans sa thèse de doctorat qui s'intitulait « Le cortège des fous de Dieu ». Où il fait un espèce de mélange de tout ce qui existe de religion, les témoins de Jéhovah, les évangéliques, ils mettent tout ça dans le même pot, puis ils brassent ça en disant « voilà les évangéliques ». Enfin, quelque chose du genre. Par contre, dans le dictionnaire de théologie fondamentale, il a écrit un très bel article que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il parle de la pensée évangélique qui est souvent déconnectée de la réalité. Et j'ai trouvé que c'était des belles pensées. Il parle, par exemple, des chrétiens qui tendent à être en fuite. Est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à être en fuite? Non, je suis le seul, OK. Bon, ben, je vais me parler à moi-même. Je vais dire amen à moi-même. Hein, depuis Adam, l'être humain est en fuite. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Raymond? Hein? On a tendance à vouloir fuir nos responsabilités, à vouloir fuir la réalité, parce que la réalité... C'est pas qu'elle n'est pas toujours ce qu'on voudrait qu'elle soit, c'est qu'elle est à peu près jamais ce qu'on voudrait qu'elle soit. Mais elle est toujours ce que Dieu veut qu'elle soit. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Dr Bergeron dit, il parle des dispensationalistes. Il dit, eux autres, c'est une fuite vers l'avant. Jésus revient. Bon, à l'extrême, je n'irai pas voter, Jésus revient. Mais Jésus revient, surtout dans les temps dans lesquels on vit. On croit tous que Jésus revient, on le sait, il l'a dit, puis il est probablement plus proche qu'on le pensait, mais il revient. On peut fuir vers l'avant. « Oh, je ne me casse pas la tête avec ça, Jésus revient. » Je me souviens de mon ex-pasteur, quand j'étais à Marieville, un jour, j'arrive chez lui, il s'est acheté un très, 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 très beau stéréo, quelque chose de bien, là. On n'était pas que les petits Bose à l'époque, vous savez, les colonnes de son. Et je dis, wow, hein, coup d'argent. Oh, j'ai sorti mon fonds de pension, de toute manière, Jésus revient. Oui, c'est une fuite vers l'avant, vous voyez. Je n'aurais pas à faire face à la situation, je fuis vers l'avant. Et dit, l'autre aspect du monde évangélique, c'est la fuite vers le haut, les mystiques. Ah, Dieu m'a dit. Je lis la parole, mais ce n'est pas assez précis. Mais Dieu m'a dit, je sais que ça m'a fait du bien quand il m'a dit cela. Oui? C'est une fuite, ça aussi. C'est une fuite vers le haut. Fuite vers l'avant, fuite vers le haut. Merci, Dr Bergeron, pour cette belle parole-là. Je trouve ça vraiment très, très bien. Ça, c'est marcher comme le monde. Fuir. Bon, le monde fuit ailleurs. Dans ces espèces de paradis artificiels, dans le sport, dans n'importe quoi. Et toujours en fuite. Parce que la réalité, c'est presque impossible d'y faire face, les yeux grands ouverts. Et il existe d'autres divisions, vous savez. Le sacré et le séculier. Bon, dans le sacré, nous avons l'adoration, la moralité personnelle, et dans le séculier, ben là, il y a les sciences, il y a la politique, il y a l'économie. On peut mettre des grandes séparations entre cela également. On dit souvent que les étudiants sont aux prises avec une dichotomie à l'université. Quand ils entrent à l'université, ils utilisent leur cerveau. Quand ils arrivent à l'église, ils le laissent au vestiaire. Là, c'est l'esprit qui prend la relève, comme s'il y avait contradiction entre les deux, vous voyez. Mais c'est souvent fois comme cela, parce que c'est imposant, parce que les discours qui sont tenus ont quand même un impact sur eux, et il faut composer avec cela. Alors, on devient un peu schizophrène à quelque part, vous voyez. On devient un peu divisé intérieurement. On ne divise pas esprit et raison. On soumet la raison à l'esprit. Alléluia. Good! Un beau amen. Permettez-moi quatre exemples sur la réalité de ce genre de division-là. Quatre exemples qui sont synonymes, en quelque sorte. Premièrement, la division entre le privé et le public. Alors là, vous avez... Ça, c'est la division de la société moderne. Hein? Vous avez les préférences personnelles en haut. Faites croire un petit peu ce que vous voulez. Puis ensuite, quand vous arrivez en bas, là, vous avez la sphère publique. Alors là, il faut se rallier à ce qu'on appelle la connaissance scientifique. Hein? Alors là, c'est l'évolution, c'est l'avortement, au niveau des genres, on repassera, etc., etc., etc. Et on n'a pas beaucoup de choix parce que même l'école figure avec la sphère d'en bas. Qu'est-ce que c'est que l'école? Elle est là pourquoi l'école? Elle est là uniquement pour former des gens qui vont fonctionner dans la société. Alors, elle ne peut avoir d'autres valeurs que les valeurs de la société. Oui? Alors, tant mieux quand on peut faire l'éducation à la maison, qu'on peut trouver d'autres formules, parce que dans l'école publique, on va former des gens avec les valeurs de la société, où ils vont être constamment à porte-à-faux ou à contre-courant. Deuxième élément, les valeurs réduites à l'arbitraire et les décisions existentielles. Dans la sphère du haut, vous avez les valeurs. Pour les valeurs, ce sont les choix individuels. Une personne peut croire au mariage, un autre peut croire qu'il y a une certaine manière d'éduquer les enfants, etc., etc. Mais dans la sphère du bas, là, on dit, ah là, il y a les faits qui lient tout le monde. Et là, il y a des valeurs qui vont être invitées à lever les feutres, parce que finalement, ils ne correspondent pas aux supposés faits qui lient tout le monde. Et c'est là où nous sommes souvent de fois en porte-à-faux avec le monde, encore une fois. Lorsqu'on arrive dans les deux niveaux de vérité, ça c'est chic aussi, deux niveaux de vérité. Dans la sphère d'en haut, il y a le non-rationnel, le non-cognitif. Qu'est-ce que la vérité? Disait qui? Pilate, merci, disait Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Mais quand on arrive dans la sphère du bas, bien, on sait c'est quoi la vérité. C'est ce qui est rationnel, c'est ce qui est vérifiable, et il n'y a aucune place pour la métaphysique. Où il n'y a aucune place pour les méta-narratifs, il n'y a aucune place pour la foi, il n'y a aucune place pour la parole de Dieu, pour un récit qui transcende l'humanité. Et là, on arrive en postmodernité, nous avons les deux niveaux de vérité. En postmodernité, le niveau d'en haut, c'est le subjectif, c'est relatif à un groupe en particulier, et le niveau d'en bas, c'est supposément l'objectif, l'universellement valide. Je me posais la question cette semaine, qu'est-ce que l'universellement valide? Parlez avec votre voisin. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'universellement? Il n'y a plus rien d'universellement valide aujourd'hui. Alors, dans ces quatre cas, on se retrouve devant, passez-moi l'expression, deux sortes de vérités. D'une certaine façon. L'une véritable et l'autre aléatoire. L'une véritable et l'autre qui n'est pas une vérité. L'une vraie pour tout le monde, et l'autre relative. Une vérité ne peut pas être relative. J'ai peut-être déjà dit, un jour, j'ai donné une conférence à l'Université Laval sur qu'est-ce que le christianisme. Et je ne savais pas trop par quoi commencer, mais j'ai commencé par Jean 14, n'est-ce pas? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Immédiatement, il y a une main qui s'est levée. Je donnais une conférence, c'était supposé être des aumôniers, mais maintenant on les appelle les accompagnateurs spirituels parce qu'ils accompagnent tout le monde, là. Il y a toutes les sortes là-dedans. Alors, ils ne peuvent pas avoir une foi précise, ils accompagnent les gens à partir de ce qu'ils sont. J'ai eu beaucoup de compassion d'eux, puis je leur ai dit. Enfin, alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'insiste là-dessus, une main se lève. Mais Dr. Perron, vous savez que la vérité est plurielle. C'était la réponse immédiate. La vérité est plurielle. Un article féminin singulier, la vérité, pas pluriel. Non, il y a une vérité qui s'appelle le Christ Jésus. Les autres vérités ne sont pas des vérités. Ce sont des idéologies humaines. Ce sont des pensées humaines qui sont effectivement vides, obscurcies, étrangères à la vie de Dieu. Pardon? Vaniteux, voilà. Alors, la vérité, c'est une autorité objective. Le croyant ne marche pas sur deux sphères ou sur deux niveaux d'existence. Il marche sur une vérité. Il y a un propos que j'ai beaucoup aimé d'un monsieur, vous devez vous en souvenir, c'est M. Jean Tremblay, à l'époque où il était maire de Saguenay, qui a fait cette formidable déclaration devant la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Une autre expression bizarre, un peu ma fin. Il a écrit ceci. Il a déclaré ceci, ça a été écrit. Et je cite, verbatim, c'est vraiment ce qu'il a raconté. « Dans notre histoire, le point de référence qui faisait loi en matière religieuse a toujours été la Bible, tant pour les catholiques que pour les protestants. Ils y voyaient un message authentique de Dieu aux hommes, et c'est à l'intérieur de ce message que s'opère le discernement, parfois délicat, entre le bien et le mal. Or, ce document n'est pas propriété des seuls juifs et des seuls chrétiens, c'est la charte universelle du genre humain. C'est pas extraordinaire comme déclaration? Bien sûr, ça lui a attiré des moqueries, des risées. Mais quelle vérité exprimée à partir de sa posture de maire. Et il y avait une belle tribune qui était celle de la commission Bouchard-Taylor. Et ça m'amène à mon troisième point, la marche chrétienne. Les versets 23-24 nous parlent de l'école du Christ. Ben oui, c'est la vérité. Et Paul utilise trois verbes qui font réellement sortir le caractère central du Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez les versets 23-24, vous trouvez le verbe « appris »,« entendre » et « instruit ».« Appris »,« entendre » et « instruit ». Et c'est intéressant de considérer ces verbes-là. Il nous est parlé d'abord d'avoir « appris Christ ». C'est toute la différence entre « apprendre » dans le sens de connaître et « apprendre des choses » concernant une personne. Connaître une personne, c'est une chose. Connaître des choses sur une personne, ça en est une autre. Connaître certains faits, voire connaître tous les faits concernant Jésus, c'est une chose. Mais connaître Jésus, ça en est une tout autre. Et la différence, elle est vraiment importante. Et on retrouve une pensée tout à fait parallèle dans les paroles même du Seigneur Jésus, en Jean chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Là, on n'est plus dans le même connaître que Romains au chapitre 1. « Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié. » Voyez? Ici, on est dans le connaître en ayant cette expérience personnelle de relation, d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. L'étymologie d'un mot ne nous fournit pas nécessairement son sens, mais ça peut à l'occasion nous donner certaines pistes très importantes. Le mot « connaître », c'est un beau mot « connaître ». « Connaître », »,« naître avec », ça nous parle de « naître avec ». Ça nous parle vraiment d'une relation, ça nous parle vraiment d'une intimité, d'une proximité avec une personne, le mot « connaître ». Et les chrétiens sont chrétiens parce qu'ils sont entrés dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un apprentissage. Et on continue à grandir dans cette relation-là. Parce que c'est quoi notre appel? Sinon que de devenir toujours davantage semblable à la personne du Christ Jésus. On commence quelque part, hein? On commence comme des enfants, des nouveaux-nés. Et quand on dit des nouveaux chrétiens, on vient à l'église, on écoute la prédication, on en comprend à peu près 4%, parce que les prédicateurs sont toujours un peu déconnectés, hein, avec leur vocabulaire hermétique. Et là, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et à un moment donné, plus on approche, mais plus on en comprend, et plus on se sécurise là-dedans, et plus on grandit, et plus on est béni. Christian, il faudra prendre des cours de pratique pour dire amen à l'occasion. Ça aide le prédicateur, c'est motivant un peu. Voilà. Donc, c'est un apprentissage du Christ qui a opéré le changement le plus profond qui soit en nous. Instruit en Christ. Entendre Christ. Oh, quel beau verbe. Il est surprenant, ce verbe-là, vous savez. Il est surprenant même dans son emploi. Dans la parole de Dieu. Non pas si vous avez entendu parler de lui, mais si vous l'avez entendu personnellement. C'est dire qu'on peut entendre personnellement le Christ. Je vais vous dire comment. Romains chapitre 10, versets 14-15. Comment croiront-ils? Bien, on va le lire ensemble d'abord, tel qu'il est ici. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est cette phrase-là qu'on va reprendre, là. Et comment en entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment ira-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est notre sujet de prière pour avoir un pasteur prochainement à la Trinité. Mais enfin, revenons au Verbe. Comment croiront-ils à celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Ce n'est pas ce que le texte grec nous dit. Laissez-moi vous traduire littéralement ce que le texte original nous dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui qu'ils n'ont pas entendu? Et comment l'entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez? Il y a quelque chose d'existentiellement particulier lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu. Comment croiront-ils celui qu'ils n'ont pas entendu? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, nous dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Bien sûr, tout croyant est tenu, comme on en parlait hier lors de notre enseignement, dans Actes 17, les Béréens, voyons, 17, voilà, hein, qu'ils vérifiaient chaque jour dans l'Écriture si ce qu'on leur enseignait était exact. Et c'était pas qu'ils enseignaient, c'était quand même pas si mal, vous voyez, mais ils vérifiaient quand même dans l'Écriture si ce qu'on leur enseignait était exact. Donc, comment avons-nous entendu Jésus? Bien, on l'a entendu dans l'Écriture. On l'a entendu par les prédicateurs de l'Évangile, Jean chapitre 10, verset 26-30. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, » de dire Jésus. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alléluia. Quelle belle assurance. S'il fallait que ça repose sur nous autres bien-aimés, hein, on serait tous suicidaires, hein? On serait tous en déprime totale et complète. Ça ne repose pas sur nous, ça repose sur celui qui nous garde. Paul avait entendu la voix du Seigneur sur la route de Damas. Les soldats autour, qu'est-ce qu'ils ont entendu, eux autres? Le bruit du tonnerre. Voyez-vous? Paul entend la voix, mais les autres entendent le tonnerre. Quand on parle aux gens de la parole de Dieu, lorsqu'on leur présente l'Évangile, si l'Esprit de Dieu n'a pas fait une œuvre première dans leur cœur, on ne fait que du bruit. On parle à nos bien-aimés, on parle à nos enfants, enfin, nous, qui ne sont pas convertis, à d'autres qui ne sont pas convertis, et ouais, je sais tout ça, tu m'en as parlé depuis que je suis petit. Hein? Mais ce n'est que du bruit. Tant et aussi longtemps qu'ils n'entendront pas Jésus lui-même par le biais de notre voix. Mais Paul, lui, l'avait entendu sur la route de Damas. En même temps qu'il y a un volet de la responsabilité humaine, bien sûr. L'existence et la qualité de notre communion en dépend. Comment fait foi ce beau verset d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20? « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle belle image! C'est l'image de la communion avec le Christ. Si quelqu'un vient et puis frappe à la porte, on n'ouvre pas la porte. On n'a pas de communion avec lui. On ne commence pas à crier à travers la porte. Hein? On n'a pas de communion avec lui. Mais le Christ dit, je viens et je frappe à la porte. Est-ce que vous entendez cet après-midi, Christ, qui frappe à votre porte? Je ne sais pas où vous vous tenez spirituellement. Mais il faut l'ouvrir, la porte. Et la parole nous dit que quand on l'ouvre, il entre et il soupe avec nous. La belle métaphore du repas communautaire avec le Christ et Jésus. Repas que nous allons prendre d'ailleurs à la fin de cette célébration. Et ça nous amène à notre autre point, instruit en Christ. instruit en lui, pas par lui, au sujet de lui, hein, c'est un petit peu comme les deux autres verbes précédents, mais c'est fascinant de réaliser à la lumière de ces trois verbes-là que Jésus est le sujet, l'enseignant et l'école. Il est le sujet, l'enseignant et le lieu d'apprentissage. Conclusion. Quelqu'un m'a dit que j'avais une voix différente dans la prédication que lorsque je fais mes émissions à la radio. C'est parce que je m'énerve dans la prédication. Alors qu'en studio, je reste plus calme. Donc, nous allons maintenant parler de choses spécifiques et avoir quelques exemples de différences que la venue du Seigneur et sa révélation opèrent dans nos vies. D'abord, les versets 20-24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La tenue vestimentaire. Avez-vous déjà assisté à un mariage africain? C'est formidable. C'est glorieux. Vous en avez plein la vue. Ils changent de vêtements 2-3 fois pendant la journée. Non, mais c'est absolument incroyable. Et les Africains, ils ont le don de porter des couleurs. Ça leur va tellement magnifiquement bien. C'est glorieux. Alors, ils ont des vêtements appropriés pour la circonstance. C'est un grand moment que de s'engager pour la vie, n'est-ce pas? Que de se marier, et il le démontre bien, et tous les invités font de même. Nous, on a eu l'occasion de le faire à quelques reprises, et on était à un moment émerveillés à chaque fois. Alors, la tenue vestimentaire, effectivement, elle a son importance. Notre nouveau rôle signifie une nouvelle tenue, notre nouvelle vie engendre une nouvelle éthique. Nous sommes, souvenez-vous à l'époque, on disait, nous sommes ce que nous mangeons. Lorsqu'on se nourrit au Christ, on se revêt du Christ et de sa justice. Et la métaphore est bien choisie, se dépouiller et se revêtir. La Bible ne nous dit pas de se dépouiller puis de rester tout nu. Non, on se revêt du Christ Jésus. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'arrêter de faire certaines choses. C'est un changement d'attitude, c'est un changement de modus vivendi, oui. Alors, il nous est dit ici dans Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Vous notez que les verbes sont au passé. Et au présent, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Alors, il y a le passé, et maintenant, il y a le renouvellement progressif qui s'opère. C'est la vie de sanctification. Nous sommes saints, nous sommes appelés à être saints. On en a déjà parlé, la position et la condition, le déjà et le pas encore. Nous sommes appelés à être ce que nous sommes, en quelque sorte. Et c'est le symbolisme de la mort à soi-même et de la résurrection en Christ. C'est le baptême. Je pointe vers là parce qu'on va en avoir un baptême bientôt, vous savez. On va avoir un baptême le 7 novembre, hein, c'est bien cela? Notre frère Daniel Ramirez, qui va effectivement professer publiquement sa foi. C'est ça le baptême. Confesser publiquement sa foi en Christ. C'est un beau sacrement. Il y en a deux dans la parole de Dieu. Le baptême et la communion. Le rite d'entrée et le rite de continuation. Alors, c'est toute la question du vieil homme et de l'homme nouveau. Lorsqu'on vient au monde, nous sommes tous en Adam. Et on est tous aux prises avec les conséquences de la chute, les effets noétiques de la chute en Adam. Personne n'y échappe. Vous savez, quand on parle du péché originel, il y a une réalité là-dedans. C'est pas uniquement qu'il y a un premier péché qui a été commis, puis bon, non. il y a eu les conséquences qu'il y avait avec. Il y a des gens qui croient que le péché originel, ça a été uniquement une chute éthique. On a offensé Dieu. Alors, on a seulement qu'à venir et dire, écoute, on peut-tu recommencer, remettre les pendules à zéro, puis on recommence. C'est pas ça du tout, du tout. On n'est pas capable de venir à Dieu. On n'a pas cette capacité-là. Parce qu'en Adam, on a pris notre décision de vivre contre Dieu, de tourner le dos à Dieu et de faire notre volonté. C'est ce qu'elle a fait, Ève et Adam, le grand garçon qui aurait dû prendre ses responsabilités puis l'empêcher. Mais non, il l'a appuyé là-dedans, bien au contraire. Hein? Satan qui lui dit, mais si Dieu était bon, il ne vous priverait pas de cet arbre-là. Il est tellement beau, puis ça a l'air tellement bon. Pourquoi est-ce qu'il vous prive de ce qui est beau et bon? Alors, Ève a dit, je suis une grande fille, hein, moi, je suis évolué quand même, j'ai une intelligence, je vais manger pour voir ce qui va arriver. Alors, on voit ce qui arrive. Et le monde répète exactement le même patron de vie. Parler aux gens de la parole de Dieu, puis, c'est-tu vraiment la parole de Dieu, ça? Même chose que Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? C'est de remettre toujours en question la parole de Dieu. Alors, depuis la chute d'Adam et Ève, on est aux prises avec cela. On a une incapacité de venir à Dieu. Il y a beau avoir toutes sortes de circonstances qui se produisent, malgré que très souvent de fois, Dieu va utiliser nos circonstances. Il va utiliser surtout nos grands échecs, parfois, des gros moments de crise, de remise en question, pour qu'on se dise, « Je suis cuit! Je ne peux pas m'en sortir tout seul! » Et là, il y a un moment de désespoir. « Qui va me délivrer de ce corps de mort? » Et c'est là où il y a une possibilité que l'Esprit du Seigneur nous amène au Christ Jésus, qui donne la vie, qui délivre, qui prend les naufragés, qui les remet à flot et qui les conduit au port désiré. Amen. Alléluia. C'est dire que nous avons besoin d'un renouvellement, nous avons besoin d'une nouvelle naissance, d'une rupture d'avec le premier Adam et d'une union avec le Christ, le nouvel Adam. Alors, si vous n'êtes pas très familier avec la parole de Dieu, à un bon moment donné, vous allez lire, ça c'était le premier homme et voici le deuxième Adam. Ben, c'est ça que ça veut dire. Il y a le premier Adam qui était Adam qui a péché en Éden, puis le deuxième Adam, ben, c'est le Christ Jésus qui est venu, puis qui lui a vraiment accompli la parfaite volonté du Seigneur. Et c'est ce que Paul nous dit ici, nous nous sommes dépouillés, nous nous sommes revêtus et nous sommes en constante transformation. C'est notre vie, c'est notre combat au quotidien. Il existe une pléthore de religions dans le monde. L'être humain a été créé pour adorer et s'il n'adore pas le vrai Dieu, bien, il va se rabattre sur les idoles. On ne peut pas se tromper là-dessus. Cependant que la religion elle-même est vide et ne peut conduire qu'à la frustration. Quelqu'un parlant des religions du monde ancien disait « Elles sont également vraies dans l'esprit du commun peuple, également fausses dans l'esprit du philosophe, également utiles dans l'esprit du magistrat. » Mais il ne voyait pas vraiment la raison de la religion. Il ne la voyait pas comme une condition de communion avec Dieu. Alors, on va terminer là-dessus parce que je me rends compte qu'il y a déjà 3 heures et on n'a pas encore pris la communion. Si le Christ ne nous enseigne pas, quelle que soit l'école qu'on va fréquenter, quels que soient les saints auprès desquels on va vouloir aller se nourrir, ça va demeurer complètement vide et inutile. Ça va n'être que des dieux inconnus, comme c'était le cas pour, hein, que Paul a constaté dans Actes 17 à Athènes. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, ce ne sont pas toutes les présuppositions qui sont bonnes, mais c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est rapporté en Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. » Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, dans les lieux célestes en Christ Jésus. Voilà celui qui conduit nos pas. Voilà celui qui nous apprend à marcher. Que ce puisse être notre marche au quotidien, notre désir ardent de marcher dans l'empreinte de ses pas, on ne risque pas de se tromper. Amen. On va prendre, si vous